C'est parti.
Donc, du coup, sinon, je vais commencer avec l'introduction. Donc, les sciences sociales, sinon la sociologie, font l'objet de définitions et d'approches très variables. Et je sais qu'en disant ça, ça fait un peu la fille qui enfonce des portes ouvertes, mais j'ai vraiment l'impression que quand on a lu un peu le corpus de texte qui a été à lire, entre guillemets, pour aujourd'hui, c'est la conclusion qu'on peut se faire assez rapidement, quoi. Du coup, j'ai voulu faire cette petite phrase un peu inutile, le point de départ de cette introduction. Donc effectivement, dans le corpus de texte qu'on avait à étudier à lire pour aujourd'hui, tout commence par une critique assez polémique de Didier Lallemand, dans l'Académisme radical ou le monologue de la sociologie, à qui M. Fabien Rangeau va répondre, puis Trum, puis Renaud, etc. Voilà. Et ces textes-là, ils se polarisent autour de ce qu'on pourrait appeler deux cadres normatifs a priori incompatibles. Donc là, je vais caricaturer le trait, mais pour que du coup tout le monde ait une sorte de même base que la nôtre qui nous a permis de construire l'argumentation par la suite. Mais d'un côté, on a l'impression qu'il y a certains chercheurs qui font l'apologie de la neutralité axiologique et se faisant qu'ils déprécient en même temps une figure que Lallemand va appeler l'académiste radical. Un chercheur héritier de la pensée de Bourdieu, qui prendra un savoir engagé au détriment de tout empirisme, de tout Dasein. C'était une petite dédicace à Alexandre Bonnemann, mais il n'est pas aujourd'hui. Oui. Selon la Péronie, du coup, ces sociologues bien pensants et complotistes, parce qu'il y a un complot néolibéral, d'après la Péronie, que pense du coup l'académique radicale, ils postulent qu'il y a des rapports de domination dans le monde, quelle idée, et qui sont la figure d'une gauche radicale et absolutiste qui cherche à dévoiler le complot. Pour la Péronie, et aussi pour Heinrich, ils sont plus militants que chercheurs. Donc tout ça, c'est une critique évidemment dans la bouche des chercheurs comme la Péronie et Heinrich, et bien sûr d'autres, mais ceux-là, ils étaient particulièrement virulents, et je vais particulièrement les mobiliser par la suite. Donc c'est pour ça que je les cite. Enfin bref, donc, de l'autre côté, on a une approche qui va être défendue par des chercheurs, en tout cas dans les textes qu'on a étudiés aujourd'hui, comme Fabien Grandjean ou Geoffroy de la Gagnère, à des degrés divers et pas forcément de la même façon, mais qui consisterait en une sorte d'affirmation du caractère politique de la sociologie. Et plus encore, ils se disent qu'il y a potentiellement qu'il faut partir du politique, peut-être, pour penser sa pratique. Et du coup, pour Geoffroy de la Gagnère, l'activité de production symbolique doit être déterminée à partir du constat que le monde est mauvais, au sens qu'il est traversé par des systèmes de domination, d'exploitation, de pouvoir et de violence qui doivent être stoppés, mis en question et transformés. Bon. Alors, là, je reprécise et je vais le faire assez souvent, mais je dresse un état des lieux approximatif en vous présentant deux camps, parce que j'aime bien le côté un peu épique des deux camps qui s'affrontent et tout, mais c'est un peu plus complexe que ça. Et nous, on va finir au fur et à mesure un peu tout ça avec Jo et Clara. Enfin bref, donc, quand on a lu tous les textes, dans un premier temps, on s'est dit qu'il serait intéressant du coup de faire un retour sur les critiques saillantes, les critiques qui ressortaient le plus souvent dans notre corpus, et d'essayer de montrer que la critique, elle était intrinsèquement liée à l'histoire de la sociologie. Et donc dans un premier temps, c'est moi qui vais m'occuper de cette partie, donc vous allez entendre que ma voix. C'est désagréable, on va voir super, c'est comme ça. Et après, dans un second temps, c'est Joe qui va parler des questions soulevées par ses critiques, la question de la neutralité notamment, la diffusion des travaux de recherche, du rôle de la sociologie. Hein, c'est un peu marrant, pas trop. Dans le brouillon qu'on avait fait de base, j'avais dit que cette partie, ça serait un peu ne pas prendre les acteurs pour des cons. Mais, et on va le rappeler super souvent, mais l'université, c'est un dispositif de pouvoir. Donc il y a des normes à respecter, qui sont aussi en UGM. Donc, du coup, on va dire que cette partie que Joe va présenter, ça va juste s'intéresser à la place des acteurs et des émetteurs. Et du coup, dans un troisième temps, Clara va terminer en parlant du rôle de la sociologie et de la place de l'université dans la sociologie. Du coup, on enchaîne tout de suite sur la première partie. Donc, je me répète un peu, mais la discipline sociologie, depuis son commencement, l'enjeu de lutte, de définition et de délégitimation. Et de délégitimation, légitimation et délégitimation, quoi, dans le même mouvement. Et donc chacun des sociologues de la controverse du jour s'inscrit dans une école, un courant de pensée, un héritage théorique, et il aborde sa discipline avec des présupposés normatifs, je pense qu'on peut dire. Et du coup, c'est ce que je vais essayer de restituer un peu dans ma partie. Donc pour ceux qui n'ont pas lu les textes, Il y a celui de la Péronie, l'Académie radicale ou le monologue de la sociologie, et celui d'Aynic, misère de la sociologie, que je vais vraiment beaucoup mobiliser dans cette première partie. Ils défendent l'idée d'une neutralité axiologique, une sorte de science qui serait neutre. Et on peut clairement leur reprocher une très forte exagération et qui donne dans la caricature. D'ailleurs, la Péronie le reconnaît lui-même dans son texte. Quand je dis caricature, Aynic, à un moment, elle termine son texte en disant « Chers collègues, de grâce, suicidez-vous, mais sans nous », alors que dans le bêtisier sociologique, elle disait qu'elle voulait comprendre les raisons des autres et réciproquement. Enfin bon, voilà, la Péronie, pareil, à un moment, il se sert de Bourdieu et d'un autre chercheur qui disait qu'en gros, ils aimaient le fait d'être en colère. Ils s'en servaient pour dire que oui, ils voulaient participer à une espèce de reproduction, ils ne voulaient pas vraiment transformer le monde, enfin, voilà. Donc ça, c'est un peu extrême, mais même s'il y a des formes caricaturales dans leurs critiques, il y a un fond qui peut être intéressant et qui va nous permettre de faire la discussion d'aujourd'hui. Donc effectivement, on a été frappé de voir à quel point les critiques des deux camps s'inséraient dans un héritage de débats qui ont émaillé les sciences sociales dès leur premier développement. Il y a eu le débat entre la neutralité et l'engagement, entre les méthodes des sciences de la nature et les méthodes des sciences de l'esprit, entre le positivisme et le naturalisme. Et ces débats, on peut dire qu'ils continuent à agiter le monde social, puisque là, on parle de textes qui datent, pour les derniers de 2017 et pour les premiers de 2004, donc ça n'est pas extrêmement longtemps. Et donc, en exemple, on va commencer par la Péronie qui parle du manque de terrain de l'académisme radical. Il dit « En restant derrière son bureau et en assistant à quelques colloques, le sociologue radical est au contraire à l'abri de toutes ces constructions semi-savantes qui s'enorgueillissent d'être en symbiose avec le point de vue des acteurs produits par les sociologues journalistes qui enquêtent. » Donc quand il dit ça, il insinue que les chercheurs engagés qui critiquent, en parlant de l'académisme radical, il insinue qu'ils ne vont pas sur le terrain. Et ça, ce n'est pas une critique anodine, ce n'est pas une critique qui sort d'un buisson, ça nous ramène à une critique qui est déjà bien ancienne. Et lors de la première conférence sur les controverses, quand Alexander Neumann il parlait de la controverse Popper et Adorno, il a parlé à un moment de Durkheim. Je trouvais que son exemple était super bien, donc c'est pour ça que je vote. Donc Durkheim, on est mi-19e siècle, début 20e siècle, donc il est né en 1858 et il est mort en 1917. Et effectivement, Alexander Neumann, il parlait de l'étude du suicide de Durkheim, dans laquelle Durkheim, il parlait des personnes âgées et des éloignées du travail comme principales concernées par le suicide. Et là, il y a du coup des chercheurs qui ont pu critiquer par la suite Durkheim en disant « Mais regardez, il ne fait pas de terrain, est-ce que c'est intéressant, etc. » Parce qu'aujourd'hui, on a d'autres études qui permettent de dire potentiellement que ce seraient les plus actifs et les plus proches du travail qui seraient les plus concernés par le suicide. Enfin bref, si on avance dans le temps, on réalise que dans les années 60 aussi, avec sa dialectique négative, il y a Adorno qui essaie de proposer un modèle en reprenant la visée centrale un peu kantienne qui serait l'émancipation de l'homme. Et il dit que pour atteindre du coup cette émancipation, malgré les forces de pression de la société moderne, il faudrait essayer de faire exister deux approches, mêler idées et empirisme d'une certaine façon. Et fait peut-être aussi intéressant, à propos de la dignité, Trom, un des chercheurs de la controverse, il disait, et là je vais le citer, que les textes de la controverse du jour, que ce soit le camp fictif que j'ai créé d'un côté qui serait à Aynic, la Péronie, contre l'autre camp fictif que j'ai créé, Fabien Grandjean, la galerie, ils partagent un univers théorique que l'on pourrait qualifier globalement de post-positiviste. Et quand il dit ça, il veut dire que les deux camps veulent lier conceptualisation et enquête empirique. Voilà. Donc si on continue encore la lecture du texte de la Péronie, il parle de Bourdieu et de son école en disant qu'il propose une sociologie qui est pensée à partir de son extériorité et de son surplomb, jamais comme le produit d'un dialogue avec les acteurs sociaux, et qu'ils imposent du coup leur propre signification à la réalité sociale sans entrer dans un dialogue avec elle, et qu'il y a quelque chose d'élitiste dans cette posture, car seul, du coup, selon la Péronie, l'élite des savants accède à la lucidité qu'offre leur théorie, entre guillemets. Et du coup, pour la Péronie, la figure du chercheur engagé, perd sa capacité de distanciation cognitive qui seule permet de produire des connaissances nouvelles. Il dit en gros que le chercheur engagé, enfin les chercheurs engagés, ils ont un problème au niveau de leur méthodologie, que leur engagement politique, il va tronquer leur recherche, qui du coup ne peut pas être considérée comme étant scientifique. Et là, encore une fois, pour comprendre l'attaque, enfin, pour bien la comprendre, ça peut être intéressant d'essayer de faire des liens, des connexions. Et donc, il faut là savoir que pour Bourdieu, il n'y avait de science que du cachet, et il souhaitait du coup dévoiler les mécanismes structuraux qui se cacheraient derrière une réalité trompeuse du quotidien. Du coup, la critique, dans ce sens-là, elle permet de mettre en lumière les paradigmes de la société. Mais du coup, pour la Péronie, la posture de l'intellectuel comme espèce de manitou de la Léthéia, c'est le dévoilement, ça peut également laisser traîner l'idée que lui seul peut offrir au monde le retour réflexif sur une réalité qu'il est le seul à percevoir. Et on peut se demander si effectivement c'est une affirmation qui est démontrable, objectivable, si c'est juste un positionnement qui est flatteur pour l'ego, qui permet de relégitimer un travail en prenant une critique sociale forte. Donc une critique sociale forte, c'est les discours qui sont en général portés sur la recherche dans l'espace public par les politiques notamment. C'est aussi les critiques internes, sciences dures, donc l'appellation est un peu polémique puisque sciences dures et le reste c'est des sciences molles, sciences faibles parce que c'est des sciences. Et aussi interne parce que là comme on le voit c'est des critiques internes, la manière de pratiquer la sociologie, enfin bref, du coup on peut se demander aussi s'il s'agit d'un positionnement stratégique de la part de l'académiste radical pour gratter des positions de pouvoir en se disant c'est moi qui vais révolutionner le monde de la recherche en proposant le truc qui va le plus être en marge, le plus dénoté quoi. Et cette critique qu'il fait, elle est intéressante parce que si on y réfléchit un peu plus, on se dit qu'elle amène aussi à se poser la question de la marchandisation de l'enseignement supérieur et de la recherche, notamment l'injonction du publisher périsse, quoi. Et effectivement, les conditions sociales d'émergence de la science aujourd'hui, elles invitent effectivement à rester vigilant épistémologiquement. Et d'ailleurs, du coup, tout ce que je viens de dire là, ça s'applique également évidemment au positionnement de la Péronie et Heinick qui défendent une neutralité axiologique. Et là on peut se demander, est-ce que militer pour une objectivité de la science, c'est pas un moyen de gagner et regagner une légitimité contre les critiques portées aux sciences sociales dont je viens de parler, et en cherchant à être en adéquation avec le mythe qui est quand même, je pense, dominant, qui serait que la science produirait des résultats neutres. Et ça je trouve ça assez marrant, si on pousse cette idée là, c'est que dans son texte, Heinick, elle dit que pour elle, cette critique du principe même d'autonomie de la science attaque les fondements du statut de toute la communauté des enseignants et des chercheurs, par au nom de quoi justifier que nous soit versé chaque mois un salaire, si ce n'est au nom de l'objectivité même contextuelle du savoir produit et transmis. Donc, enfin, elle-même remet la question de la marchandisation de l'enseignement dans le début. Ouais. Quoi qu'il en soit, on a la critique de la Péronie que j'ai mentionnée. Elle nécessite au moins deux réponses. Pourquoi ne pas défendre une neutralité axiologique comme eux? Et deux, pourquoi choisir ce positionnement de chercheur émancipateur qui dévoile les vérités cachées? Donc, pour parler de la mission de dévoilement de la sociologie, on peut encore une fois remonter dans le temps, parce que tout ça s'inscrit dans ma petite théorie, en tout cas, voilà, dans une espèce d'histoire critique, quoi. Et donc si on remonte, là, on peut remonter jusqu'à Karl Marx. Et du coup, je vais utiliser Jean de Mont qui parle de l'impulsion hegelienne qui, à travers Karl Marx, irrigue la moitié de la sociologie et qui serait... c'est une sorte d'injonction. L'idée de se dire, en tout cas, qu'il s'agit de transformer le monde, c'est-à-dire de lier théorie et pratique, qu'il faut remettre en question les catégories dominantes ou, en tout cas, postuler que le monde est mauvais au sens de Geoffroy de Lagagnère dont j'ai parlé précédemment. Que le monde est mauvais, qu'il exerce une forme de violence symbolique, qu'il y a une domination sociale qui se joue, qu'il y a un processus de soumission par lequel les dominés perçoivent les hiérarchies sociales comme légitimes et naturelles. Et du coup, là, je vais citer Fabien Grandjean, même si savoir comment la société fonctionne n'a sans doute en soi jamais libéré les sujets sociaux, en méconnaître pour partie les mécanismes ne saurait cependant non plus constituer un avantage. Le savoir, et notamment celui des sciences sociales critiques, peut toutefois bien constituer une scène d'ouverture du possible en décalant les perceptions par la critique du présent, en mettant au jour les conditions de possibilité de la domination et de l'autonomie, mais aussi en initiant par le mouvement même d'une pensée plus éclairée une certaine forme d'autonomie par l'effet de connaissance. Voilà, donc ça c'est pour la première partie. Pour la deuxième question qui se posait, le soupçon d'élitisme que fait planer les critiques de la Péronie, encore une fois, je vais citer Julien Grandjean dans les sciences sociales vigilantes ou sciences sociales politiques, en disant qu'il ne s'agit pas de remettre en cause les capacités des individus à produire des formes de critique, mais seulement de rester perplexe quant à la possibilité que ceux-ci ont d'engendrer une critique scientifiquement fondée. Après, pour ce qui est de la posture de la neutralité axiologique en elle-même, et là qui est dans leur idée, c'est maintenir une distance entre le jugement de fait et le jugement de valeur, se dire que la science, elle doit produire des jugements de fait et pas des jugements de valeur, et du coup que la science doit prétendre à une certaine objectivité et dire même que la science est objective. Pour moi, en tout cas, je fais partie des gens qui se disent bon, que du coup j'évolue dans une société, qu'elle me traverse, que j'ai des interactions avec des gens, que de toute façon je ne suis pas vue. Mais donc, comme je suis en L2, je n'ai pas de légitimité pour le dire, donc je suis obligée de citer quelqu'un d'autre. Donc j'ai cité Jean-Marie Brun, qui lui parle de l'illusion que le sociologue pourrait rester apolitique, neutre, désengagé, impartial et désimpliqué. Et il y avait une petite punchline que je trouvais pas mal aussi de Lagadry dans son livre. Il disait, il parlait de la Suisse en 1945 en disant « Être neutre dans un monde en guerre, c'est laisser la guerre se poursuivre. » Et donc, enfin, c'est un choix en fait de laisser la guerre se poursuivre. Et donc forcément d'engager. Voilà. et donc Fabien Grandjean, je trouve qu'il ne dit pas autre chose quand il dit qu'il faut se demander si l'idée d'une science parfaitement neutre n'est pas autre chose qu'une fiction. Pour changer peut-être un peu de discipline d'argument, je trouve que les études des gender studies, sur la question de la binarité notamment, elles illustrent assez bien l'idée de l'impossibilité de la neutralité de la production scientifique, parce que, en gros, pour ce qui est de l'homme et de la femme en catégorie, les gender studies, ils montrent comment c'est une construction, notamment médicale, quoi, du scientifique, qui ils le montrent en déconstruisant de la même façon, qui prouve que les scientifiques, dans un premier temps, disaient, bah, il y a une binarité, vous voyez bien qu'il y a des hommes et des femmes. Dès qu'on se pose la question, bah, alors il y a des hermaphrodites, du coup, où ils sont. Du coup, ça peut faire basculer, se dire que potentiellement, la science, elle est pas, elle n'est pas neutre, quoi. Enfin, je trouvais que c'était un bon exemple, on comprendra. Enfin, voilà. Donc, du coup, si on mène ces recherches en occultant qu'il y a des rapports de domination, il y a un risque aussi de tomber dans le que descriptif. Et Bourdieu, il disait à ce propos, si faire de la sociologie devait se réduire à rapporter ce que les gens disent ou savent, les sociologues, ils devraient renoncer à toute prétention de scientificité. Dans la mesure où l'ordre social est sous-tendu par des rapports de domination, qu'elle le veuille ou non, la sociologie participe à la critique de l'ordre social. C'est pourquoi la sociologie, dans cette perspective, est inévitablement critique. Et du coup, il y a une anecdote qui s'est produite aujourd'hui, qui je trouve marche assez bien. Également, c'est M. Grandjean, il revenait sur l'étude d'ethnométhodologue qui travaillait sur la façon dont on ouvrait les portes dans un centre commercial. Ça dit quelque chose dans un moment qui était aux autres séminaires, du coup. En disant que, effectivement, si on fait courir la. Enfin, s'ils étudient que le fait d'ouvrir la porte, on peut se dire que peut-être ça n'a pas grand intérêt. Mais si on décale notre regard, et du coup, si on pense la totalité et les rapports de domination, ce que les gens de la classe, ils sont trop géniaux, ils ont fait, du coup, et c'était Marie qui est là, on obtient un truc que je trouve genre mille fois plus intéressant. On se dit que la porte automatique, elle peut entrer dans une politique de domestication et de contrôle des corps, par exemple. Et du coup, là, on décale totalement, et là, on entre dans une dimension qui est un peu plus intéressante que, alors, est-ce qu'il bouge par la droite ou par la gauche, comment il le fait, et est-ce que ça fait que coulisser ou pas. Donc, décaler le regard, penser la totalité et les systèmes de domination, ça peut aussi mener à ça. Donc là-dessus, moi, je vais un peu brutalement ma partie, en espérant que j'ai été assez claire pour que vous compreniez que potentiellement, la critique, c'est lié à l'histoire de la sociologie et de la sociologie, et que tous les débats sur la bonne pratique sociologique, s'il y en a en tout cas, ils s'inscrivent dans cette histoire qui est, enfin, que j'ai trouvé assez intéressant, là, du coup, en étudiant tout ça. Je tiens aussi à ajouter peut-être que ces critiques et ces controverses, il faut quand même s'en rendre compte, que ce n'est pas binaire, qu'il y a de plein de subtilités que je n'ai pas évoquées. Mais par exemple, dans la critique lapéronienne, Bourdieu, elle est une caricature de chercheur engagé qui est prêt à abandonner tout scientisme au profit d'un engagement. Bah, Bourdieu, c'est aussi quelqu'un, il avait une interview sur RDC 95, à qui on demandait est-ce que l'inégalité sociale, elle peut être utile? Est-ce qu'elle elle sert à quelque chose? Et ben, il a choisi de ne pas répondre en disant, souvent pour poser les bonnes questions scientifiques, il faut écarter les questions politiques. Et genre, pareil, quand Nathalie Hennig, elle se fait la porte-drapeau d'une neutralité axiologique weberienne, disant oui, l'académisme radical, l'injonction à la neutralité axiologique de Weber, et ben, Weber, il a aussi dit que la science, elle était politique. Et on peut se demander si c'est pas aussi des problèmes de traduction, mais ça m'a été partie de Joël Lara. Enfin, bref, et je suis vraiment pas certain, d'ailleurs, que Weber se rangerait du côté d'Hennig dans ce qu'elle disait. En tout cas, contrairement à Hennig, qui dit que c'est tous les débats, toutes les controverses et les critiques, elles empêchent la sociologie d'être une science et qu'elle la laisse à un état de préhistoire, voire de préscience, je pense que les controverses, elles sont très, très importantes parce qu'elles permettent de maintenir une attitude critique dans nos pratiques, en tout cas de recherche, et elles assurent du coup la vitalité de la discipline, mais qu'elles soient d'un côté ou d'un autre.
Je pense que vous avez compris que c'est quand même un problème de fond à la sociologie, et là le corpus sur lequel on se base, c'est vraiment pour cristalliser ce problème-là, mais c'est quelque chose qui dépasse simplement ces auteurs-là. Moi, dans ma partie, justement, je vais essayer d'objectiver un petit peu le rôle de la sociologie dans l'espace social en soi, et revenir sur quelques éléments d'épistémologie de la critique pour essayer de lisser ce problème-là, même si je pense que c'est une controverse qui n'est pas dépassable. On va essayer de la dépasser chacun à notre échelle, ce serait déjà ça. Et justement, je vais retourner sur la question de la neutralité axiologique. Hennig notamment, qui la cite pas mal, et puis qui va parler de neutralité engagée par la suite. Donc, du coup, tout ça, c'est basé sur une idée de Max Weber qui avait été mal traduit, justement. Ça, c'est, on l'a vu ce matin, mais c'est Kalinowski, du coup, qui nous parle de ça. Mais du coup, faut pas oublier qu'en fait, Weber, quand il parle d'une neutralité axiologique, d'une certaine neutralité axiologique, dans le même temps, il va aussi se pencher sur la question du rapport aux valeurs dans les sciences sociales, et il en fait quelque chose de central dans son étude, en fait. Ce qu'il dit littéralement Weber en 1904, c'est « La qualité d'un événement qui nous fait considérer comme un phénomène social et économique n'est pas un attribut qui, comme tel, lui est objectivement inhérent. Elle se laisse plutôt déterminer par l'intérêt de notre connaissance telle qu'elle résulte de l'importance culturelle spécifique que nous accordons à l'événement en question dans le cas particulier. » Donc Weber, là où il va parler de neutralité axiologique, c'est aussi pour défendre une certaine idée de l'intérêt axiologique. En ce que porter un intérêt de connaissance particulier sur un objet, c'est justement de lui donner un sens. Et aussi admettre que finalement le monde sensible, il n'est pas exhaustivement observable et complètement définissable tel quel, en fait. C'est l'intérêt qu'on porte à l'objet qu'on décrit qui va permettre de dire des choses, et c'est ça qui est fécond. Donc là où justement Hennig s'empare de ces théories-là pour s'opposer, on va dire, à des sciences qui seraient conçues en fonction de leurs conséquences politiques, on pourrait lui rétorquer aussi que les conséquences politiques sont à même la conception de ces sciences. Par exemple, toutes les critiques qui ont été portées à Bourdieu en ce qui concerne son étude sur les sondages, par exemple, elles ne relèvent pas de critères scientifiques. Alors, je vais m'expliquer dans le sens où, quand on critique ses études sur le sondage, on les fait à l'aune d'un appui normatif, c'est-à-dire qu'on les fait à partir d'une conception très particulière de ce qu'est la démocratie, de ce qu'elle est actuellement et de ce qu'elle devrait être. Donc là, c'est une critique politique et non plus scientifique, en fait. Et ça permet, je pense, en tout cas cet exemple-là de critique de la critique, de rendre compte de la complexité de la place des sciences sociales dans la raison politique en soi. Et Johanna Siméon, par exemple, je me base un peu sur un article d'elle pour sortir du corpus, elle va le souligner, on peut identifier dans certains travaux de sciences sociales des préférences politiques, donc enfin, une forme de normativité chez les auteurs, mais ça ne va pas invalider en soi la démonstration. Et pour elle, justement, les valeurs peuvent être un appui à la recherche, mais le but étant d'objectifier ces valeurs et justement de les engager dans sa recherche. Donc, par exemple, Lagannerie va parler de, quand il parle de l'engagement, il précise très bien justement que le non-engagement est une forme d'engagement. Et c'est là justement où il faut se poser des questions. Et donc cette question des valeurs qui peuvent être un appui à la recherche, ça nous permet de nous interroger justement sur l'intérêt axiologique de la recherche. Et justement, est-ce qu'on pourrait envisager, en fonction d'un axe de recherche défini autour justement d'une charge normative qui est explicitée, une forme de typologie et donc de hiérarchisation des différents objets à l'analyse. Donc c'est là où on s'interrogeait aussi sur la question des portes ouvertes, mais en soi l'objet ne renvoie pas à l'axe, enfin à un axe de recherche critique, mais dans une perspective critique on peut s'emparer de cet objet-là et l'étudier justement sous l'angle de sa normativité critique. Et donc voir justement qu'est-ce qui est intéressant de montrer ou de cacher dans ce genre d'étude et dans ce genre d'objet. Donc quoi qu'il en soit, comme l'a souligné Maëva, en fait on ne peut pas se définir comme un savant neutre parce que ça interdit en soi de penser sa propre place dans l'espace social et dans l'espace académique qui va quand même impliquer certains rapports de production qui sont particuliers. Bourdieu, il parlerait de dépendance à la doxa de croyances ordinaires, justement de se penser neutre dans cet espace académique. Et pour Siméon, ce qui est intéressant, c'est que là elle parle justement de démarche pré-réflexive quand on parle d'un engagement inconscient justement. Et est-ce qu'on peut estimer que justement la recherche a besoin de cette réflexivité, est-ce qu'on s'arrêterait à cette pré-réflexivité qui nierait complètement l'engagement du chercheur et dans l'espace social dans lequel il évolue et dans l'espace académique dans lequel il travaille. Et donc voilà, je pense qu'on ne peut pas nier le potentiel normatif de l'engagement du sociologue dans le monde social. D'ailleurs, c'est une question fond, qu'est-ce qu'on entend par engagement? Quand Hennig nous parle de chercheur médiateur, d'accord, c'est une forme d'engagement dans le monde social, mais justement, est-ce que c'est ça qu'on entend par engagement? On en parlait la semaine dernière sur la question des degrés d'engagement, et je pense que c'est important de s'arrêter là-dessus quand même. Parce que il faut des arguments valides justement quand on nous porte ce genre de critiques. Et donc toute cette question justement du potentiel normatif de l'engagement du sociologue, ça me permet de dire que c'est pas étonnant que des typologies de sociologie soient produites en fait pour essayer de comparer différents styles. Je sais plus quel auteur parle de style, mais je trouve ça assez intéressant. Et donc différentes typologies qui vont chercher à classer les sociologies, qu'elles soient traditionnelles, critiques, on va parler de sociologie de policy sociology ou de sociologie professionnelle, qui permettent de classer selon des critères de scientificité. Ce qui est intéressant avec cette démarche-là, par exemple, Raymond Boudon en 2002, qui fait une typologie de 4 sociologies différentes, voilà, ça lui permet complètement de dégager la critique des critères de scientificité et d'imaginer, enfin, d'assurer que la sociologie critique n'est pas une sociologie. Ou au contraire, on peut trouver des contre-sociologies qui vont rendre compte de la nécessité de ces différents styles, leur interdépendance et leur complémentarité, comme Buravoy en 2005. Et ce qui est intéressant justement avec Buravoy, c'est qu'il estime que la place de la sociologie critique, enfin pour l'espace et place justement dans la sociologie critique, dans la sociologie américaine, et ça lui permet notamment de souligner la centralité de la critique au sein même de la discipline, qui va interroger constamment l'intérêt épistémologique et axiologique justement de la discipline. Pour qui et pourquoi on fait de la sociologie ? Donc en fait cette question de typologie et de contre-typologie, ça repose finalement sur une simple distinction dans la manière d'assumer le lien constitutif de la sociologie avec la critique ou avec la charge normative en fait qui est intrinsèque à la science sociale en tout cas. Boltanski dans De la critique justement il souligne, enfin, il précise bien que les projets scientifiques qui soient descriptifs ou critiques ont toujours été développés en parallèle et aujourd'hui sont rendus solidaires en fait, et on ne peut plus ne pas les penser ensemble. Et c'est en ça que je pense qu'on peut s'interroger sur le sport de combat qu'est la sociologie, c'est que quoi qu'il arrive, il y aura toujours cette controverse-là, et c'est un truc indépassable, mais qu'il faut chercher à dépasser constamment, et c'est ça l'intérêt scientifique en fait de la discipline. Donc on observe que la propre réflexivité des chercheurs autour de cette question de la normativité, elle est sous-tendue par une définition conflictuelle de ce qu'est l'utilité sociale et l'utilité du chercheur dans son espace social. Et ça, à mes yeux, en fait, ça construit une fracture arbitraire entre les militants et les experts, et qui a le droit de s'exprimer, donc à quel chercheur a le droit de s'exprimer en tant que militant ou en tant qu'expert. Et la question de l'expert, en fait, c'est qui peut se permettre d'être neutre, qui a le droit justement d'être un expert et de fonctionner de cette sorte, de la sorte, en fait. Donc, De la Gannerie, par exemple, il le précise assez souvent, mais pour lui, la neutralité, elle est dangereuse. Je pense qu'elle l'est. Damasio, il a une belle phrase pour parler de ça, en tout cas des experts, c'est faire que tout bouge sans que rien ne change. Et je pense que c'est assez significatif. Donc cette question du statut d'expert, enfin, elle permet de souligner l'importance de penser l'autonomie du champ, en fait. L'autonomie, c'est un gros mot, hein, mais justement, il faut essayer de remettre en perspective la sociologie dans le champ scientifique, et donc penser l'autonomie de ce champ-là vis-à-vis de la politique, de l'économie, des fondations, des médias, et de fait aussi sa potentielle non-autonomie. Il y a eu des critiques, justement, notamment quand on part d'un point de vue sociologique un peu interactionniste au sens réducteur, où les institutions sont ce qu'elles sont, elles sont solides parce que ce sont les acteurs qui font les institutions telles qu'elles sont. Et donc ça, du coup, ce n'est pas une démarche de dénaturalisation pour le coup de l'institution, c'est pas admettre que le caractère construit en fait des dites institutions sociales, pas de construction neutre, quoi. Et c'est intéressant parce qu'on retrouve, du coup, on peut redénaturaliser le discours. Alors, pour Weinig, parce qu'on n'arrête pas de parler d'elle, mais pour le coup, elle va complètement interdire le passage du savoir scientifique à l'univers militant. Par contre, quand le sociologue prend le statut d'expert, là, c'est tout à fait légitime. Et oui, le sociologue devrait se permettre d'avoir, du coup, cette charge normative là-dedans. Mais alors, pour qui et pourquoi ? Donc je pense que ce serait aussi intéressant peut-être plus tard aussi qu'on s'arrête sur la question de la fracture militant-expert, en tout cas quel est le rôle de la sociologie en soi, quoi. Et donc sur ce point particulier, encore Johanna Siméon, mais je la sollicite beaucoup, dans un article où en fait elle essaye d'articuler les discours militants-experts et scientifiques et essayer de comprendre les statuts qui s'en dégagent et le sens qu'il leur est donné historiquement. Sur ce point, Johanna Siméon, elle nous dit: si l'on reconnaît un lien entre forme de l'investissement militant et savant des scientifiques, recrutement social des disciplines et structures des rétributions scientifiques, alors les territoires de la recherche les plus balkanisés et dans lesquels l'obtention du crédit scientifique est la plus brouillée sont aussi les plus vulnérables aux investissements experts, militants et prophétiques. Il y a donc bien quelque chose dans la délimitation des univers savants et militants qui renvoie au bouger de frontières plus ou moins verrouillées, de définitions plus ou moins larges et plus ou moins politisées de l'intellectuel et du savant selon les époques et les contextes. Et en ça, le statut du sociologue médiateur, justement, que propose Heinig, montre bien qu'on propose une définition particulière et normative, et normée, du rôle social du sociologue dans l'espace qu'il étudie et justement dans l'espace de la recherche. Et là, du coup, c'est une forme de norme, on va essayer absolument de chercher le consensus en tant que chercheur. Mais voilà, c'est quand même une représentation très spécifique du rôle de sociologue. Et donc, cette impossible neutralité de la sociologie, se demander du coup si on peut nous la retourner pour nous dire justement que c'est un caractère ascientifique de la discipline. Alors là-dessus, on peut revenir déjà sur la base commune de, malgré toutes ces controverses, la question du post-positivisme, où on admet qu'il faut articuler la théorie et l'empirisme, et aussi travailler quand même sur une forme de rupture, notamment avec nos prénotions, mais aussi avec le sens commun des enquêtés. Au moins, on a déjà cette base commune-là. Et tout en sortant de la neutralité, qui est pour moi un mot qui ne fonctionne pas du tout, je pense que déjà ce serait beaucoup plus simple de parler d'objectivité, d'objectivité imparfaite, constamment, et d'objectivité à objectiver en soi, et de déclarer la charge normative qu'on va mettre derrière. Et donc pour revenir là-dessus, il y a toute cette base post-positiviste, et on va essayer de voir avec quelques éléments épistémologiques où sont vraiment les tensions au sein de la sociologie. Et on peut délimiter différentes étapes de la pensée sociologique. Elle peut se borner à la collecte de données dans une visée descriptive et explicative, ce qui permet de rendre compte du réel en soi, ce qui serait le caractère purement scientifique de la sociologie pour certains. Là où justement d'autres vont non seulement accepter ça, parce que justement c'est une base tout à fait essentielle, mais après cette description, cette explication, cette compréhension, on peut également tendre à une perspective évaluative. D'où la question des jugements de fait, des jugements de valeur dont on vous parlait tout à l'heure. Une perspective évaluative, ce serait, grosso modo, souligner des rapports de domination, souligner des pathologies sociales en fonction de ce qu'on a envie de montrer. Et enfin, une dernière étape qui est envisageable, ce serait une perspective transformatrice ou prescriptive, normative, qui se devrait proposer des supports à l'engagement dans des actions qui visent à transformer la réalité sociale. Donc là, Pierre Bourdieu, il aurait parlé. Sociologie sert à donner des armes. Ou en ça, déjà, pour revenir encore plus loin dans le débat, on peut parler du coup de la 11e thèse de Feuerbach, où on insiste que le penseur, le philosophe, ne doit pas seulement décrire le monde, mais doit viser à le transformer. Donc là où Heinig rétorque que le dévoilement des rapports de domination, ça ne ferait que faire tourner en rond les chercheurs qui ne parleraient que de la même chose et qu'en plus la domination serait un acquis, je pense qu'on peut lui répondre déjà que c'est important de discuter le concept de domination et le fondement de ce concept, mais je ne pense pas qu'il soit possible d'estimer que l'on a acquis l'entière compréhension des phénomènes de domination et d'aliénation, d'autant plus si l'on prend en compte leur caractère situé et leur historicité. Les formes de domination, elles évoluent, quoi. Donc, on en parlait il y a 2 ans, ce ne sera peut-être pas la même chose aujourd'hui, et je pense qu'il est quand même nécessaire de dévoiler ce genre de choses. Mais la démarche critique, ce n'est pas seulement cette question de dévoilement des structures de domination et des formes d'aliénation. C'est aussi, quand même, accepter la capacité des acteurs et observer la capacité des acteurs à s'émanciper. Et ça, ça a été le cas justement dans toute la sociologie critique, qu'on parle de Marx, de la théorie critique, de Gramsci, Bourdieu, jusqu'à encore aujourd'hui Boltanski ou d'autres auteurs. Donc observer les structures de domination, je pense, ne se résume pas simplement à un holisme réducteur, comme ça on va chercher à globaliser le monde, ou enfermer les acteurs dans leur propre illusion ou leur propre déterminisme. C'est bien justement essayer de pousser à la totalité, tout en étant complètement conscient qu'on n'arrivera jamais en rendre compte dans la perfection, quoi. Mais répondre à des questionnements sur le fonctionnement social, justement comment le social fonctionne en ordre et comment on peut interroger cet ordre-là. Et donc, c'est une critique qui a souvent été faite à Bourdieu, justement d'observer des agents, du coup, selon ces termes, des agents qui seraient dénués de, je ne vais pas dire de libre arbitre parce que ce n'est pas ça la question, mais en tout cas qui seraient de capacité d'agir et justement de capacité d'émancipation. Alors Bourdieu, quand il parle de forme de méconnaissance, il faut quand même préciser que ce n'est pas une ignorance pure du jeu social des agents, c'est quand il parle de méconnaissance, on peut dire littéralement en gros, en soi il dit que la méconnaissance elle est fondée sur l'ajustement inconscient des structures subjectives aux structures objectives. C'est-à-dire qu'on s'engage tacitement dans un jeu dont on n'a pas accès à toutes les règles. En fait, il y a des présupposés de ce jeu social-là. Je parle de jeu, mais on peut bien sûr pousser beaucoup plus loin la chose. Mais c'est des présupposés qui ne sont pas forcément donnés à l'acteur. Ce n'est pas une ignorance, en fait, c'est la force idéologique en soi des rapports de domination qu'il s'agit de montrer, tout en précisant que l'acteur a une capacité d'agir. L'agent, du coup, en l'occurrence, a une capacité d'agir. Et surtout que le chercheur, il n'est pas complètement exempt de cette question de la méconnaissance, justement, et qui cherche aussi à dépasser sa propre méconnaissance. Quelque chose qu'on cherche à objectiver, à dépasser. Et au-delà de ça aussi, on ne va pas que regarder l'aliénation en critique, mais on va essayer quand même essayer de saisir les pratiques émancipatrices des acteurs. Et donc pas s'arrêter seulement sur les dispositions qui pèsent sur eux. Donc, Fabien Grandjean, justement, dans l'article qui renvoie du passage aux sciences sociales vigilantes aux sciences sociales politiques, on va préciser que le rôle de la critique est de rendre compte scientifiquement de ces rapports sociaux inadéquats, ça c'est moi qui le dis, et de s'interroger sur les possibilités d'intervention sociologique en politique. Et donc là, ce qui est intéressant, en fait, c'est que le statut critique dans la recherche vise justement, en fait, en premier lieu, à interroger la place du chercheur dans son espace et à interroger les usages sociaux de ses productions scientifiques par les acteurs. C'est-à-dire, c'est prendre en compte, dans le fondement même de la recherche, le rôle de la praxis comme raison pratique. Quoi. Quelle est la charge politique de la critique et de la recherche en général, et qu'est-ce que peut faire le chercheur avec ça. Et donc là-dessus, je voulais un petit peu sortir de cette controverse, on va dire, et aller nous souligner juste l'intérêt des travaux de Luc Boltanski. Et accessoirement, Thévenot, Fiabello derrière, mais surtout Boltanski dans De la critique, que je n'ai pas lu, mais c'est dans le cours. Du coup, les travaux de Boltanski qui visent à délimiter l'espace d'une sociologie pragmatique de la critique, et non pas critique, qui visent donc à observer les formes de critique ordinaire observables dans des situations de gestion de conflit, de dispute, comme dirait Thévenot, tout en soulignant par là même les capacités critiques des acteurs sociaux et leurs effets sur la résolution d'un problème social. Donc en soi, c'est une forme où Boltanski cherche à s'éloigner de cette critique, justement, on dit le chercheur a une position de surplomb sur ses enquêtés. De sociologue éclairé. Quoi. Donc il cherche à sortir un peu de ça, mais justement ce qui est intéressant dans sa démarche ces dernières années, c'est justement essayer de comprendre comment on va pouvoir articuler la démarche surplombante et la démarche pragmatique. Et je pense qu'il est nécessaire de trouver des éléments d'articulation à cette position de chercheur-là, justement. Donc là où je pense que oui, on peut parler de c'est une citation justement d'un article que je viens de citer, où on peut rester perplexe quant à la possibilité que les acteurs sociaux ont d'engendrer une critique scientifiquement fondée. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est justement la démarche pragmatique, et on peut penser à John Dewey en premier lieu, qui va voir les processus d'émergence des publics quand on parle de traiter des problèmes auxquels ils sont confrontés. Ce qui est intéressant, c'est que John Dewey, par exemple, nous dirait que les acteurs peuvent, de leur plein gré, se lancer dans une forme d'enquête, certes profane, mais propre à forger une opinion, et non un avis, à travers la recherche et la mise à l'épreuve de faits. Et donc s'il y a un travail de sens commun, mais pas que, c'est-à-dire non théorique, sur le social, ils arrivent quand même à... Enfin, bien sûr que les acteurs font une critique fondée de ce qui leur arrive et arrivent à produire un savoir pratico-théorique. Et c'est une manière aussi d'envisager les formes d'émancipation, d'essayer d'avoir aussi ces démarches pragmatiques constamment en arrière-plan. Dans ce même article justement de Fabien Granjon, il précise bien que des savoirs pratico-théoriques peuvent être produits depuis des procédures non scientifiques. Il ne faut pas nier complètement la réflexivité des non-sociologues et des enquêtés à articuler justement ce qui leur arrive, quoi. Les formes de méconnaissance ne les bloquent pas justement dans une illusion permanente. La méconnaissance, c'est juste la particularisation d'un conditionnement social de la pensée. Et on peut justement briser ce conditionnement, moi je l'espère. Donc, pour finir ma petite partie, je vais avoir une dernière citation de Johanna Siméon qui, je pense, me paraît chargée de sens et qui on pourrait peut-être discuter tout à l'heure. Elle nous dit « Le minimum de cohérence que l'on devrait être en droit d'attendre de sociologues attentifs à l'intelligence et à l'inventivité d'acteurs sociaux qui sont capables de lire, serait de se limiter, en tant que scientifique, à choisir des objets ou analyses utiles aux militants dans lesquels ils se reconnaissent, se mettant alors en situation de contrôler leur rapport aux politiques sans se sentir engagé dans des logiques de restitution et de contre-dons susceptibles de surcroît de fragiliser leur crédit scientifique. » Là, c'est un questionnement. La particularité des sciences sociales, rappelé Bourdieu, est précisément que la classe dominante n'a aucun intérêt à leur autonomie, parce que cette autonomie qui n'équivaut en rien à la neutralité aboutit par définition à contester les représentations dominantes du monde social. Et voilà, donc je finis là-dessus, mais j'espère qu'il y a assez d'éléments déjà pour essayer de saisir un peu autrement cette problématique et essayer de voir juste qu'est-ce que nous apporte la critique épistémologiquement, théoriquement et méthodologiquement pour répondre à ces questions-là.
Alors du coup, ce qu'on voit à partir des deux premières parties qui nous ont été présentées, c'est surtout qu'il y a une question de positionnement de la sociologie dans le champ scientifique. Après, c'est pas nouveau, je pense que c'est aussi depuis extrêmement longtemps, c'est-à-dire qu'il y a un problème qui se pose avec la sociologie qui est lié au fait qu'on étudie des relations sociales et donc du coup que ces relations sociales sont constamment en mouvement et qu'elles sont constamment changeantes. C'est justement cette difficulté à trouver un paradigme commun qui puisse du coup convenir à tout le monde pour pouvoir parler de la société contrairement aux sciences brut, même si du coup on peut revenir justement grâce à la philosophie des sciences, etc., à cette question d'avoir seulement un axe de recherche dans les sciences brutes, justement. Il y a vraiment, voilà, cette instabilité dans les sciences sociales qui a toujours posé problème, notamment en termes de légitimité, et de dire qu'est-ce qui fait science et comment ça fait science. Et moi, ce dont je voudrais parler dans ma partie, parce que du coup la question de savoir comment on fait science et est-ce que la sociologie fait science, elle a vraiment bien été développée par Maëva et Joe. Moi, ce sur quoi je voudrais vraiment venir dans ma partie, Joe, il a dit un peu à quoi sert la sociologie. Moi, je voudrais poser cette question suivante. À qui et pour qui sert la sociologie? Que je trouve extrêmement importante, parce que du coup, la sociologie, elle se situe dans un cadre qui est celui de l'université, et c'est pour ça que je vais parler majoritairement de la place de l'université et de la place du chercheur dans l'université. L'université, c'est, quoi qu'on en veuille, un lieu qui n'est absolument pas neutre, dans lequel il y a des rapports de pouvoir. Donc il va falloir évidemment mobiliser Bourdieu, parce que Bourdieu l'explique très très bien. C'est un champ dans lequel, un lieu dans lequel s'exerce un champ, et donc dans lequel il y a des luttes pour la domination du champ. Et cette controverse-là fait, à mon avis, très bien ressortir cette lutte pour la domination du champ. Du coup, je me suis posé cette question. Enfin, je me suis dit, ok, donc l'université, cette controverse, elle est très française parce qu'on parle aussi d'une université qui est une université d'État. Et parce que cette université est une université d'État, je me suis posé la question suivante. Pourquoi la sociologie sert-elle les intérêts de l'État? Et autres, en fait, parce qu'elle ne sert pas juste seulement les intérêts de l'État. Donc, quand Annick et la Véronique disent que les problèmes de la sociologie, c'est d'être trop politique, de la sociologie critique, pardon, c'est d'être trop politique. En fait, la question, elle est profondément politique. Et même la manière dont la critique est tournée, dont la critique de la critique, en gros, est tournée, est profondément politique. Et il y a une chose qui nous a marqué dans le fonctionnement de cette controverse et qui peut nous faire dire qu'elle est politique et pas scientifique. Du coup, Joe en a un peu parlé tout à l'heure. C'est que, du coup, elle s'est énoncée principalement sur, du coup, la méthode de la sociologie critique. Mais on n'a jamais de... Il n'y a pas de base empirique dans cette controverse et dans les textes. Pour ceux qui n'ont pas lu les textes, du coup, je vous dis. En gros, la critique est basée sur, du coup, une méthode dite de la sociologie critique qui laisserait de côté l'empirisme, etc. Mais en fait, on n'a pas de corpus. Donc on ne sait pas si Laperroni, il va critiquer une méthode particulière, il ne met pas en avant une grille d'analyse, par exemple, qui va lui sembler problématique. Il laisse ses corpus, je crois qu'il dit ça à un moment donné, par rapport à Nietzsche et une critique qu'elle a faite de Bourdieu sur des anecdotes. C'est ce qui serait intéressant dans ce cas-là, si on voulait vraiment pousser la controverse, de faire une critique de la méthode plus approfondie par une enquête de réception, par une enquête auprès des acteurs de la sociologie et des scientifiques, etc. Et donc, du coup, il est difficile d'y voir une controverse scientifique, mais beaucoup plus facile, en revanche, d'y voir une controverse structurelle, située, presque idéologique, au sens de magiste, Elisabeth Garraud, et profondément politique. Et du coup, on pourrait considérer, comme Joe l'a dit, que si le sociologue est engagé, neutre ou pas, puisqu'on s'est accordé sur le fait qu'un engagement pouvait être neutre ou pas, de ce fait, son savoir, ou du moins sa vision de la discipline, constitue une norme, alors c'est bien que cet engagement laisse entrevoir une forme d'idéal de ce que devrait être l'université. Et donc, du coup, on se retrouve dans une sorte de confrontation de deux points de vue, de deux représentations d'une université, deux représentations qui sont également très situées. Et je voudrais partir de ça, donc du coup j'ai essayé d'esquisser, à mon avis, qui servait la sociologie. Donc du coup j'ai dit, on pourrait dire qu'elle sert l'État, d'une part, puisque c'est un organe public, donc du coup les chercheurs sont des fonctionnaires de l'État, ils doivent répondre d'une demande publique. Et on pourrait dire également qu'elle est destinée au monde de l'entreprise, dans la mesure où elle forme des individus, les étudiants, à s'insérer sur le marché du travail. Et ça, en fait, c'est tout au long, dans la controverse, un peu sous-jacent, mais pas vraiment mis en avant, c'est cette question, en fait, de la relation entre le chercheur et son étudiant, en fait, et ses étudiants. Parce qu'on n'est pas dans un principe vraiment d'école où il y a un chercheur pour un étudiant, etc. Mais on est vraiment... il y a Heinick qui en parle, et qui en parle de manière, je trouve, très représentative, du caractère profondément politique de cette controverse par rapport à la situation de l'université, puisqu'elle dit à un moment donné, je sais plus si elle le dit dans son texte, mais en tout cas elle le dit dans une conférence qu'elle donne à Montréal, que le concept de domination, il est bon à servir un cours de L1 en amphi. Et du coup elle en fait la critique. J'ai tendance à prendre les punchlines. Moi, ça m'a vachement intéressée parce que je me suis dit, est-ce que c'est pas là, finalement, tout l'intérêt de la sociologie critique que de donner justement ces cours-là en L1 et de la sociologie en général, en fait, parce qu'elle parle d'un point de vue qui est très situé et qui est celui d'une chercheuse au CNRS qui donne des séminaires à l'EHESS, ce qui n'a strictement rien à voir avec une chercheuse dans une fac publique, par exemple, qui n'est pas à Paris ou à l'intérieur même de Paris, et qui se retrouverait à donner des cours à des étudiants de L1, de L2, de L3, de Master 1, Master 2, qui n'ont pas forcément vocation à s'engager justement dans le champ scientifique, mais qui ont aussi vocation à se professionnaliser et donc à rentrer dans le monde, potentiellement, du monde de l'entreprise, quoi. Et donc c'est là, en fait, qu'on trouve intéressant la question de la domination qui est remise en question. Par exemple, Renaud, qui est une des personnes qui est dans le corpus par rapport à la controverse, dit que c'est vraiment dommage d'abandonner le concept de domination ou de dire que le concept de domination, comme le dit Annie, tomberait dans le sens commun. Parce qu'en fait, non. Et du coup, c'est comme on disait ce matin, c'est vachement intéressant parce que du coup, Heinrich dit que de faire de la politique, c'est lorsqu'il faut répondre d'une forme d'expertise, par exemple, pour un gouvernement. Et Joe, il l'a très bien dit, c'est problématique, d'autant plus que c'est pas juste le gouvernement, mais aussi les entreprises. Et en fait, c'est là que la domination ressort. C'est dans l'incapacité à remettre en question sa propre position de pouvoir, comme on en parlait ce matin. Et en fait, ce que j'ai trouvé intéressant, alors après, je ne sais pas si la citation de Weber que j'ai, elle est pas mal traduite. On aurait peut-être eu besoin de Newman à ce niveau-là pour me dire si oui ou non elle a été mal traduite, mais voilà. Mais en tout cas, il semblerait que dans un des premiers interdits que Weber a dit au niveau de la neutralité axiologique, il y a ça. Tu ne joueras pas les prophètes accrédités par l'État. Jamais tu ne t'abandonneras à débiter du haut d'une chaire, au nom de la science, des verdicts décisifs concernant la conception du monde. Et ça, je trouve ça extrêmement révélateur de ce que ça peut être, que du coup d'être dans une position de pouvoir et ne pas pouvoir remettre en question sa position de pouvoir, c'est du coup de siéger dans plusieurs chaires tout en défendant l'idée selon laquelle la domination est un concept qui est vu et revu, qu'il est tombé dans le sens commun et que ça ne sert à rien du coup d'aller dans le dévoilement de ce concept-là. Donc du coup ça peut paraître un peu décousu ce que je dis, mais outre du coup les paradoxes propres à cette critique qu'on voit beaucoup chez Laperroni, qu'on voit beaucoup chez Annie, qu'on voit beaucoup aussi dans les réponses de tout ça, mais c'est normal parce qu'on est des êtres profondément imparfaits avant d'être des chercheurs, c'est que du coup il y a cette position de l'étudiant dans une université qui à la fois sert les intérêts de l'État et à la fois sert les intérêts néolibéraux des entreprises. Et Laperroni peut dire autant qu'il voudra que du coup les réformes de l'université sont-elles oui ou non néolibérales, les réformes de l'université sont profondément néolibérales. Et donc du coup on se retrouve dans des positionnements un peu, je dirais, schizophréniques de la place de l'étudiant dans l'université, dans la mesure où à la fois on lui a vendu un mythe de l'université idéale qui allait lui donner une sorte de savoir neutre sur le monde, de savoir qui allait pouvoir le nourrir, lui faire d'un côté prendre des armes, d'un autre côté avoir une réception plus compréhensive du monde. Donc toujours dans ces deux idéaux qui se confrontent, qui sont l'idéal de l'autonomie avec la préservation des libertés individuelles et l'idéal de l'engagement du coup et d'armer la critique pour que la critique d'armer les militants par la critique et en même temps de s'armer des militants pour faire la critique. Et du coup, il y a vraiment, enfin, moi je trouve qu'il y a une sorte de schizophrénie qui naît, qui est vraiment la place de l'étudiant à ce niveau-là et qui est trop peu mis en avant, parce que du coup, ces mêmes logiques néolibérales veulent que de toute façon, le chercheur doit publier, Maëva l'a très bien dit, il doit publier, on est dans le publisher paye riche. Et donc du coup, peut-être oublier d'un côté ce rôle-là qu'il a aussi de prof des universités, en fait, tout simplement, et qu'une des diffusions majeures de la sociologie, c'est quand même les étudiants qui sont en face de nous. Et du coup, de se dire, et je trouve ça intéressant aussi, du coup, la critique que Laperroni fait, de se dire, est-ce que le chercheur qui est radical vraiment peut être radical dans ce milieu-là? Et la place de l'étudiant, quelle est-elle à ce niveau-là? Parce que du coup, l'étudiant arrive à l'université en pensant à la fois qu'il va obtenir un savoir sur le monde, comprendre le monde, s'armer de la critique, etc. Mais qu'en même temps, il va pouvoir du coup être formé à rentrer dans le monde du travail. Et y a quelque chose, enfin, j'ai peut-être du mal à l'expliquer, et je suis désolée vraiment, mais... Voilà, on est dans une situation actuelle de transformation des sciences sociales, dans un contexte de transformation profonde de l'université, qui plonge quelque peu les disciplines dans une forme de conflit les unes avec les autres, et donc deux questions viennent alors. La sociologie radicale peut-elle vraiment s'exercer dans un contexte où la course à la réussite personnelle en réseau, axée sur la capacité à publier, comme le rappelle Maëva, de plus en plus d'articles, est juste prégnante et fondamentalement incapacitante? Et deux, est-il possible d'être militant et chercheur à la fois? Et trois, ne pourrait-on pas considérer qu'il s'agit d'une critique réformiste au sens de Boltanski et Schiapello qui souhaiterait changer l'université de l'intérieur? Donc là, je pense à ce qu'on disait ce matin, que du coup, il y a vraiment quelque chose d'intéressant dans la critique de Laperroni au niveau du chercheur radical. C'est vraiment cette position de chercheur radical au sein même d'une université qui exerce un pouvoir de domination qui est énorme, notamment dans la possibilité à publier, dans la possibilité à donner des cours, dans la possibilité à être reconnu en tant que chercheur. Alors, alors même qu'on voudrait critiquer ce même système et le transformer de l'intérieur. Et donc moi je pensais, alors du coup il y a de la galerie qui parle du coup d'une critique dysfonctionnelle et fonctionnelle. Moi je pense plutôt à Boltanski et Schiaparelli dans Le Nouvel Esprit du Capitalisme, qui parlent de la critique réformiste et de la critique radicale. Et la critique radicale qui veut changer du coup le système en profondeur, et la critique réformiste qui veut améliorer le système parce qu'il n'est pas assez bien. Et est-ce que le chercheur radical, en restant au sein même de l'université qui l'empêche du coup de pousser le plus possible sa critique, notamment par des systèmes de domination du champ qui se révèlent en fait dans notamment la question de ne pas vouloir remettre en question les positions de domination et de vouloir oublier qu'il y a de la domination au profit d'un savoir neutre, et est-ce que finalement c'est pas rester dans une forme de critique réformiste? Du coup c'est une question que j'ouvre au débat après, et c'est une question aussi que Marie posait très bien ce matin. Et puis au niveau de ces transformations néolibérales de la fac, il y a aussi cette question-là, c'est que du coup la transmission du savoir critique pour armer la critique et pour ainsi émanciper les acteurs, du coup, enfin, c'est vrai que c'est peut-être ma position située aussi d'étudiante qui me fait dire ça, mais du coup, armer les acteurs, pour moi, c'est d'abord armer les étudiants, parce qu'une fois que de toute façon le savoir est tombé dans les mains soit de l'expertise de l'État, soit dans les mains de l'expertise médiatique, il sera de fait transformé de telle sorte qu'il soit intelligible par les organes de pouvoir. Donc, de fait, il perdra de sa constitution critique. Et puis, c'est intéressant aussi de se dire, de le rappeler comme ce matin, quand on décide d'être médiatisé en tant que chercheur, c'est du travail aussi d'aller dans les médias, de constituer un discours qui va cadrer avec le discours médiatique, le cadrage médiatique, etc., qui prend du temps, et qui prend peut-être un peu trop de temps par rapport au temps de recherche et d'empirique, ça je pose la discussion, vraiment. Et du coup, dans ces conditions-là, moi je vois que vraiment, les personnes qu'on peut émanciper le plus avec une critique de la société par la sociologie, ce serait potentiellement donc les étudiants qui arrivent et qui à la fois ont besoin aussi de comprendre comment le monde fonctionne, de comprendre que le monde n'est pas si simple, qu'il n'est pas simplement dans la description, dans la compréhension, mais aussi dans des problématiques de domination, que peut-être les étudiants ont très bien compris, mais que juste ils n'arrivaient pas à mettre les mots dessus ou quoi. Et en fait, jusqu'où peut aller cette arme de la critique, notamment avec, désolé, mais Parcoursup, qui va faire en sorte que clairement les personnes qui ont besoin de savoir le plus que du coup la critique est bénéfique et est émancipatrice n'auront potentiellement plus accès à l'université et n'ont déjà potentiellement pas accès à l'université, et c'est ça qu'il faut bien rappeler. Et donc du coup voilà, donc des questions encore qui sont posées. Je pense que du coup la tout le monde ne peut pas être chercheur et tout le monde ne peut pas être étudiant. Donc du coup, être honnête avec ses étudiants sur les conditions de fonctionnement et de préservation de la société est aussi important, je pense. Et du coup, il y a des questions qui se posent là-dedans. La sociologie est un sport de combat pour qui s'attelle, parce que le savoir, nous le savons, induit le pouvoir. Mais surtout, la reconnaissance, à mon sens, induit le pouvoir. Mais alors là, en ce moment, j'ai vraiment très très envie d'aller voir l'Hexagonette. Mais vu que je suis étudiante en M2 et que j'ai un mémoire à écrire, voilà. Mais j'irai. Et du coup, voilà, parce que je pense aussi que tous ces trucs de publier sur Périche et le fait de vraiment publier beaucoup d'articles, de faire beaucoup d'articles, d'écrire beaucoup d'articles, ça laisse de côté plein d'autres rôles de l'enseignant-chercheur, notamment celui peut-être d'enseignant. Et j'ai une question qui me pose vraiment, mais qui est fondamentale là-dedans. En fait, est-ce que c'est si facile que ça de publier tant de livres et de comptes rendus d'enquête? Est-ce que c'est si facile que ça d'écrire à ce point qu'on peut ensuite être considéré comme étant une pompe de la sociologie parce qu'on a vraiment produit beaucoup d'écritures, etc. Et la lutte pour la domination du champ en vaut-elle la peine, du coup, si vraiment on est dans un contexte où de toute façon le système de domination prendra le dessus? Vous disiez ce matin qu'il y avait une branche de la théorie critique qui était éminemment pessimiste. J'ai bien peur que du coup cette controverse me rende éminemment pessimiste. Mais on pourrait conclure en disant aussi en allant voir ailleurs, en allant voir plutôt dans la philosophie des sciences et du coup dans une autre forme épistémologique du savoir qui est celle de Feyerabend et qui a ses limites évidemment, mais qui au moins pose la question du savoir parce que là ce qu'on voit c'est aussi que l'université est en crise et en crise politique, en crise du savoir, en crise de la science. Et que même si cette crise peut, au sens d'Isabelle Carreau, dans la manière où elle dit Marx, du coup servir au capitalisme et lui servir du coup à se renouveler et à se perpétuer, pour Feyerabend, il y a aussi ça de bien, que du coup il y a du bon à prendre dans les moments, dirions-nous, chaotiques, de chaos politique, ou de moments où du coup il y a des conflits, je pourrais rejoindre aussi la queue et mouf là-dessus, et le fait que peut-être le conflit peut être porteur d'avancement. Et, alors c'est là qu'on peut mettre une limite à Feyerabend, c'est que du coup lui pense le progrès, et du coup il pense que du coup ce conflit-là peut faire avancer le progrès, et je pense qu'il faudrait se questionner aussi sur ce que l'on considère comme étant progressiste ou non, et donc de quelle manière quelque chose est progressiste. Et est-ce que quand on voit le progrès, on ne voit pas aussi du coup une certaine forme de domination sur le monde et sur la nature, etc. Mais voilà, au moins de penser que peut-être dans ce chaos épistémologique, on peut trouver des manières de faire autrement, de fonctionner autrement, d'aller voir ailleurs et de continuer à de toute façon chercher l'émancipation quoi qu'il arrive. Voilà, sans évidemment tomber dans le biais qui est quand même extrêmement individualiste, de penser qu'on n'a pas besoin de collectif et que du coup, au sens de vraiment Feyerabend, qui, je pense, sa théorie peut avoir des biais. Enfin, oui, pardon, c'est l'épistémologie anarchiste, sa théorie. Mais que du coup, sa théorie peut avoir des biais quand même individualistes, dans le sens où il estime qu'en tant qu'individu, on est maître de nous-mêmes et qu'on n'a pas besoin de collectif, d'école ou quoi que ce soit, et que du coup on peut aller voir partout où on veut ce qu'on veut. Et on vient aussi cette limite de la transdisciplinarité, jusqu'à quel point la transdisciplinarité peut expliquer le monde. Débattons.